Alors ce matin, je vous propose de lire deux textes. Le premier, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30. Et en même temps, on va continuer dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, qu'on a commencé il y a deux semaines. Et c'est surtout dans le livre du prophète Ésaïe qu'on va tirer l'essentiel de la prédication de ce matin. Donc si vous voulez bien prendre dans Ésaïe, chapitre 30... Je vais lire pour l'instant le verset 15, mais on tirera d'autres lectures de ce chapitre. Et ensuite, Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Donc je lis Ésaïe chapitre 30 et verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, nous allons ouvrir à Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Il est dit, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Alors d'abord, on va donner un certain nombre d'indications au sujet du chapitre 30 d'Ésaïe, du contexte du verset qu'on a lu. On va savoir pourquoi le Seigneur dit ça à ce moment précis et à qui est-ce qu'il le dit. Et on verra que ce passage nous parle de ce que Dieu attend de nous et de quelque chose que Dieu veut pour nous. Et on fera dans une troisième partie un parallèle avec le passage de Galates, chapitre 1. Parallèle qui vous paraît peut-être pas évident, là maintenant tout de suite, mais qui est d'un grand encouragement. Donc, on va commencer par Ésaïe, chapitre 30. On va voir le contexte. Ésaïe a prophétisé environ 700 ans avant la naissance du Seigneur Jésus. Il a été envoyé par Dieu au peuple de Juda et de Jérusalem. Alors pourquoi Juda spécifiquement et pas tout Israël? Pourquoi Jérusalem? Eh bien parce que depuis plusieurs siècles, au moment où Dieu s'adresse à Ésaïe, il y a eu une scission, une séparation entre les 10 tribus du nord qui forment le royaume d'Israël et 2 tribus au sud qui forment le royaume de Juda. Et Jérusalem est la capitale du royaume de Juda. Le royaume d'Israël au nord a pour capitale Samarie, et c'est un royaume qui est réputé pour son idolâtrie. On y célèbre le culte des veaux d'or, et l'idolâtrie, le culte de faux dieux, est très répandu dans le pays d'Israël. En Juda, on continue à adorer l'Éternel, c'est là qu'il y a le temple, à Jérusalem, mais pour autant tout ne va pas bien. Il y a de bonnes choses encore en Juda, mais l'idolâtrie se répand. On s'éloigne de Dieu de plus en plus, on lui est infidèle. Mais on voit que le Seigneur ne jette pas l'éponge facilement. Pendant le ministère du prophète Ésaïe, Dieu va déporter toute la population d'Israël en Assyrie. Mais il y a encore quelque chose de bon en Juda, et le Seigneur ne jette pas l'éponge, et il y a encore de l'espoir pour Israël. Alors il a envoyé Ésaïe pour dénoncer les infidélités d'Israël et pour tenter de le ramener dans la bonne voie. Je dis qu'il y a encore de l'espoir pour Juda, mais quand on lit Ésaïe, il y a quelque chose de poignant, c'est qu'on se rend compte que Dieu sait, et Ésaïe sait, que c'est un ministère qui est voué à l'échec. Un ministère qui ne portera pas de grands fruits, si l'on peut dire, parce que Dieu a prévenu Ésaïe qu'il allait annoncer la parole à des gens durs d'oreille, à des gens qui veulent être aveugles. Alors Dieu les prévient, il les menace, il les supplie de revenir dans la bonne voie. Il leur annonce aussi les terribles malheurs qui vont s'abattre sur eux parce que Dieu juge les infidèles. Il leur annonce cela en leur disant « Si vous ne vous repentez pas, voilà ce qui va vous arriver ». Et dans tout le prophète Ésaïe, on voit aussi C'est un prophète qu'on peut dire messianique. Il annonce, c'est peut-être celui qui a le plus annoncé le Seigneur Jésus. Des prophéties extraordinaires, surtout quand on sait qu'elles ont été faites 700 ans avant la naissance du Seigneur. Et dans notre texte, plus spécifiquement dans le chapitre 30, c'est la parole que Dieu annonce à son peuple après avoir dénoncé son indifférence, après avoir montré son manque de foi et son refus d'écouter la parole de Dieu. Alors si vous avez déjà lu tout ce chapitre 30, vous pourriez avoir l'impression que les péchés qui sont dénoncés sont des péchés de personnes qui sont des inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais regardez au verset 1, Ésaïe 30, verset 1. On va voir que dès le premier verset, il est clair que ça s'adresse aux enfants de Dieu, à des enfants rebelles, mais aux enfants de Dieu. Il est dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Alors, j'ai pas choisi le texte pour ça, mais c'est intéressant que ce texte parle de résolution. Est-ce que vous avez pris des résolutions en ce début d'année? Est-ce que ce sont des résolutions que vous avez prises avec ou sans Dieu? Est-ce que ces résolutions ont pour but de vous servir, vous, ou de servir le Seigneur? Ne prenons pas nos résolutions sans Dieu, mais cherchons sa face. Cherchons à le servir. Cherchons sa volonté. Quand je dis prendre une résolution avec Dieu, je vais dire « Seigneur, voilà ce que je veux faire. Exauce-moi, soutiens-moi. » Non, question de chercher la volonté de Dieu, de prier, d'attendre une réponse et de chercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Dans notre texte, dans ce verset qu'on vient de lire, on va regarder le verset 2, dit « Malheur donc à ceux qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Là, il y a quelque chose qui nous concerne particulièrement. Le peuple d'Israël, de Juda, a été libéré par le Seigneur de l'esclavage de l'Égypte, de l'oppression de Pharaon. Mais que se passe-t-il? Voilà que pour son confort, pour sa sécurité, il va chercher du secours auprès de Pharaon, auprès de ce pays où il a été esclave pendant 4 siècles. Dans le contexte, là, Juda était menacé par des puissances étrangères qui voulaient l'envahir. Eh bien, au lieu de chercher Dieu, au lieu de s'humilier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher du secours auprès de l'homme, et pas n'importe quel homme, auprès de celui qui est le représentant du monde et de Satan. Si on fait un parallèle avec notre propre vie, Israël était prisonnier en Égypte, et nous, nous étions prisonniers du péché, du royaume des ténèbres. Israël était esclave de Pharaon, comme nous, nous étions les esclaves de Satan et du péché. Israël vivait à la mode égyptienne, et nous, nous vivions selon le monde. Et Dieu a fait sortir Israël du pays d'Égypte. Le Seigneur Jésus, lui, nous a transportés dans son royaume. Qu'est-ce qu'on peut dire, d'après vous? Qu'est-ce qu'on peut dire du peuple qui a connu cette délivrance et qui retourne volontairement dans l'esclavage? Qu'est-ce qu'on peut dire de celui que Dieu appelle citoyen des cieux, mais qui vit pour le monde? La parole de Dieu nous dit que c'est un enfant rebelle. Et je dis que oui, le peuple de Juda était menacé, il y avait des ennemis, et sérieux ennemis, qui menaçaient d'envahir Juda. Mais au lieu de s'humilier, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de prier, ils sont allés faire des alliances humaines, ils sont allés chercher le secours des hommes. Il y a un enseignement pour nous, parce que nous pouvons être, nous aussi, dans des situations stressantes, pressantes, peut-être même en grand danger. Mais si, au lieu de rendre gloire à Dieu, nous allons chercher le secours des hommes, devrions plutôt être en train d'attendre son secours. J'ai envie de dire son sur-secours. Et dire, c'est mon Dieu, il est mon sauveur, il ne manquera pas de me venir en aide, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Je peux lui faire confiance. Veillons à ne pas réfléchir et chercher nos propres solutions, à ne pas oublier que Dieu est au ciel. On a un Dieu qui est au ciel, qui est souverain, qui fait tout ce qu'il veut. Regardez Ésaïe 30, verset 9. Dieu va encore plus loin, il les appelle des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel et qui disent aux voyants, ne voyez pas. Aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses. Est-ce qu'on peut croire que des enfants de Dieu agissent de la sorte? C'est dur à croire, mais je crois que oui. Des enfants de Dieu peuvent agir de la sorte. Regardez 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Parce que c'est dans la perspective d'un temps comme celui-là que Dieu nous dit qu'il faut prêcher la parole. Prêche la parole en prévision d'un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. On a certainement connu des personnes qui ne voulaient pas obéir au Seigneur et qui ont détourné l'oreille de la vérité qu'ils avaient entendue, qu'ils s'étaient engagés à suivre, qu'ils avaient commencé à suivre. Et ils ont détourné l'oreille pour aller là où cela leur convenait, là où cela leur faisait plaisir. Et ils se sont tournés vers des enseignements qui tordaient les Écritures. Je voudrais nous encourager aussi à veiller à la lecture que nous faisons de la parole de Dieu, à ne pas rester dans ces passages qui nous sont agréables. Il est bon de lire des passages qui nous font du bien, d'être exhortés, d'être encouragés par eux. Mais n'oublions pas de lire toute la parole. Parce qu'il y a des passages qui vont nous gêner, mais par eux, Dieu veut nous faire avancer. Et c'est après avoir dénoncé ses péchés, après avoir dénoncé à la fois leur indifférence vis-à-vis de Dieu, mais en même temps toute l'énergie qu'ils mettent pour chercher du secours parmi les hommes, c'est après avoir dénoncé une vie comme si Dieu n'existait pas, que le Seigneur leur dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai une question pour vous. Quand tous vos péchés se dressent devant vous, quand votre conscience vous accuse, comment est-ce que vous réagissez? Quand l'Esprit Saint vous révèle votre péché, votre incrédulité, votre indifférence, et quand Dieu vous montre le jugement qui attend les pécheurs, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Auprès de qui est-ce que vous cherchez un refuge? Judas cherchait refuge auprès de Pharaon, parce qu'avoir le soutien d'une grande puissance, l'Égypte c'était une grande puissance, avoir le soutien de l'Égypte était quelque chose de réconfortant. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Auprès de qui est-ce que vous placez votre confiance? Et les exemples que je vais donner sont des exemples vrais, que vous avez même peut-être déjà entendu vous-même. Mais une personne à qui on a posé cette question un jour a répondu, « J'ai été baptisé, j'irai au ciel, quoi qu'il arrive. » Une autre personne a dit, « J'ai fait tous mes trucs d'église. » Un autre a dit encore, « J'essaie d'être fidèle, de ne jamais faire de mal et de compenser le mal que je peux faire par de bonnes œuvres. » Une autre personne a répondu, « Je connais très bien le pasteur de mon église. » Et quelqu'un encore s'est plongé dans les plaisirs, dans les loisirs, pour faire taire sa conscience alarmée. toutes ces réponses, toutes ces réactions sont véritables, elles sont authentiques. Je les ai personnellement vues ou entendues. Mais ce sont des réponses de personnes qui sont allées, d'une certaine manière, chercher refuge auprès de Pharaon. Aucune n'a parlé du Seigneur. Aucune n'a parlé de Jésus-Christ et de son œuvre. Face au jugement qui va s'abattre sur ce monde déchu, Dieu nous dit que notre salut se trouve dans la tranquillité et dans le repos. Il y a quelque chose d'assez surprenant. Mais combien se fatiguent pour acheter un salut qui n'est pas à vendre ? Combien s'appuient sur ce qui ne vient pas de Dieu pour calmer une conscience qui est troublée et souvent qui est troublée avec raison ? Combien fuient ? Combien détournent l'oreille ou occupent leurs oreilles avec autre chose que la parole de Dieu ou refusent purement et simplement d'écouter quand il s'agit du jugement ? Vous savez, j'ai vu cette réaction face à la lecture du jugement qui attend les pécheurs. Je veux pas lire, je veux pas entendre, je veux pas voir. Mais le Seigneur, lui, nous parle de repos, de tranquillité. Pourquoi ? Parce qu'il a prévu une solution complète, une solution qui est parfaite pour le pécheur. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour prendre sur lui le châtiment. Et comme il a pris le châtiment, il nous donne la paix. Si vous croyez cela, alors le Seigneur vous donne tranquillité et repos. Vous connaissez le psaume 23 ? Que disent les versets 1 et 2 ? L'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et celui qui suit docilement le bon berger est en repos dans son cœur. Il a l'âme tranquille. Il peut rester en paix, se reposer, sans se tourmenter pour son salut, sans se tourmenter pour son âme, parce que tout est déjà prêt, tout a été déjà payé. Et ce verset 15, il ne parle pas seulement de tranquillité et de repos, il parle aussi de confiance et de force. Être fort. Est-ce que vous avez envie d'être fort ? Toujours, hein ? On a envie d'être fort. On recherche ça. Parce qu'il faut être fort pour affronter la vie, la difficulté de la vie. Il faut être fort pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il faut être fort, il faut être un battant. C'est dur, la vie. Alors, il y a des personnes qui sont naturellement fortes, qui ont un caractère de battant, un esprit qui est tenace, qui est volontaire, dynamique, presque guerrier. On dit de ces personnes-là, oui, qu'elles sont fortes, sont naturellement fortes. C'est une bonne chose, mais à condition que ça ne détourne pas de Dieu et que ça ne remplace pas Dieu. Parce qu'être naturellement fort peut nous conduire à éliminer Dieu de notre raisonnement, de notre comportement, de notre pensée. Parce que quand tout repose sur notre propre force, pourquoi est-ce qu'on irait chercher la force de Dieu ? Si vous êtes naturellement fort, prenez garde de ne pas éliminer Dieu de votre vie. En général, notre monde nous propose une vision de la force qui va passer par une discipline stricte, un entraînement sévère. Pour être fort, il faut s'entraîner, faire preuve de dureté. Il faut aussi jouer des coudes pour arriver le premier. Si vous regardez au verset 16, juste après ce verset-là, dans Ésaïe 30, en Juda, on voulait prendre la course à cheval. Ils ne voulaient pas se reposer sur l'Éternel. Ils voulaient se reposer sur leurs chars, sur leurs chevaux, pour faire la guerre, entraîner des hommes, confectionner des armes, pour aller vaincre l'ennemi qui se présentait. Mais le Seigneur donne une définition de la force et surtout une méthode pour être pourvu de cette force qui est totalement différente de ce que le monde propose. Il nous dit calme et confiance. Calme et confiance feront votre force. Alors, le Seigneur n'est pas en train de prescrire la méditation zen pour arriver à être fort. Que ça soit bien clair. Parce que il faut être calme en lui, calmement attaché à lui. Lui faire confiance, parce que la force n'est pas en nous, mais qu'elle est en lui. Quand un problème se profile dans votre vie, quel est votre premier réflexe ? Est-ce que c'est la panique ? La réflexion, quelles sont mes solutions ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ou est-ce que c'est de fléchir les genoux devant Dieu ? Dire, Seigneur, j'ai un problème. J'ai peut-être même une montagne de problèmes. Quelles sont tes solutions ? Ma propre nature, c'est de me mettre en mode inquiétude et de réfléchir à toutes les solutions que je peux trouver humainement aux problèmes qui se trouvent face à moi. Alors que je devrais rester dans le calme et la confiance, parce que je crois en un Dieu qui est au ciel, un Dieu qui est plus grand que mes montagnes de problèmes puisqu'il a fait les cieux et la terre. Est-ce que vous êtes d'un tempérament calme ? Je vois des têtes qui disent non. Je sais qu'il y en a qui sont d'un tempérament calme. Il y en a qui ne perdent pas facilement leur sang-froid, qui ne cèdent pas à la panique au premier instant. C'est bien, c'est une grâce. Mais le Seigneur dit calme et confiance. On peut réfléchir tout à fait calmement à des solutions purement humaines. On peut rester le plus calme possible, un calme olympien, mais ne pas faire confiance au Seigneur. Je voudrais qu'on prenne un exemple. Si vous tournez quelques pages dans Ésaïe, allez au chapitre 36 et 37. C'est l'exemple du roi Ézéchias. Ézéchias, c'est un bon roi. Il a fait de très bonnes réformes dans le royaume de Juda. Et Ésaïe lui a prophétisé, c'est un roi fidèle. Et quand le roi d'Assyrie arrive, qu'il commence à s'emparer de plusieurs villes dans le royaume de Juda, qu'il va assiéger Jérusalem, et qu'en plus il va faire une campagne de propagande pour décourager les soldats de Juda qui montent la garde sur la muraille, que va faire le roi Ézéchias? Regardez chapitre 37, verset 1. Il dit « Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, il se couvrit d'un sac et il alla à la maison de l'Éternel. Il est allé chercher la face de Dieu, il est allé consulter le Seigneur. Il n'a pas sonné l'alarme, il n'a pas demander à ses soldats de faire un entraînement encore plus dur. Il n'a pas renforcé ses défenses, mais il s'est humilié devant Dieu. Dans le seul qui peut apporter un véritable secours. Il s'est humilié devant Dieu parce que Dieu reste entièrement maître de toute situation. Regardez au chapitre 36, les versets 4 à 10. On voit la campagne de propagande de l'ennemi qui fait tout pour lui faire perdre cette confiance. Et ne doutez pas que le diable fait la même chose avec nous. Rabshaké, qui est l'envoyé du roi d'Assyrie, leur dit « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre son pays, contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. On voit, tout y passe. Le mensonge, la tromperie, il essaye de semer la confusion. Est-ce que tu es sûr de t'être véritablement appuyé sur Dieu? Mais non, je suis sûr que tu t'appuies sur l'Égypte. Et de toute manière, l'un comme l'autre ne te seront d'aucun secours. C'est exactement ce que fait l'ennemi. Dieu, mais Dieu ne t'aidera jamais. Tu es sûr que tu as placé ta confiance en lui? Tu as vraiment fait tout comme il faut? L'ennemi agit exactement de cette manière-là avec nous. Mais Dieu dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera votre force. Si vous faites confiance à Dieu, et en particulier dans ces situations assez terribles que vous pouvez être amené à rencontrer, vous entendrez certainement ce qu'on m'a dit un jour, « Tu places ta confiance dans un livre, mais tu es fou !» Si la Bible n'était qu'un livre, alors oui, nous serions fous. Mais la Bible n'est pas un livre, c'est la parole de Dieu. De sorte que ce sont ceux qui refusent de l'écouter qui sont fous. Vous vous souvenez du texte de Galates chapitre 1 ? Il est écrit « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » La Bible en laquelle nous mettons notre confiance, cet évangile auquel nous croyons, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est pas une fable. Ça n'est pas une histoire inventée par les hommes, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu a parlé et que l'on sait ce qu'il a dit? C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Créateur a parlé et nous connaissons ses paroles. Quand on lit dans Colossiens qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Le Dieu qui ne peut pas mentir. Quand on lit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », c'est Dieu lui-même qui parle. C'est lui qui s'engage. C'est son honneur qui est en jeu. Et si l'évangile est la parole de Dieu, alors je peux m'abandonner entièrement à ce que Dieu a dit. Je peux tout miser sur l'évangile, parce que l'évangile est vrai. Il n'y a pas une seule parole de la Bible qui sera trouvée fausse. Dieu y veillera. L'évangile dit que je suis aimé par Dieu, en Jésus-Christ. Que rien ne pourra me séparer jamais de cet amour. La Bible dit aussi qu'en Jésus-Christ, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que la grâce de Dieu m'est accordée. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, je ne suis plus appelé pécheur, même si je le suis, mais je suis appelé enfant de Dieu, je suis appelé saint, je suis appelé bien-aimé du Seigneur. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, je peux m'approcher de Dieu avec confiance et être sûr de recevoir la miséricorde et le secours dont j'ai besoin. C'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, qui va dire le contraire? Ce sont des choses que je n'ai pas besoin de sentir, des choses que je n'ai pas besoin de voir. Il me suffit de savoir que Dieu l'a dit. Ésaïe 30, verset 15, disait « Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le peuple de Juda n'a pas voulu faire confiance à Dieu. Pourquoi ? Parce que ça demande un effort, il y a un combat. La parole de Dieu nous parle du combat de la foi. Vous n'avez pas voulu faire confiance. Vous avez préféré choisir vos armes, votre force, plutôt que la force de Dieu. Pourquoi ? Parce que ça défie notre réflexion, ça défie notre raison. Aller au temple, se mettre à genoux, prier, se revêtir d'un sac, au lieu de revêtir une armure, de prendre une épée et de sonner l'attaque, alors que les ennemis sont là, aux portes, qu'ils ont déjà ravagé plusieurs villes. C'est fou. C'est illogique. Oui, mais c'est ainsi que la foi parle. Je fais confiance au Dieu qui a promis son secours. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit de nous efforcer d'entrer dans le repos de Dieu. S'efforcer de se reposer. Ça peut paraître contradictoire, mais je connais des personnes qui ont du mal à se reposer. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Est-ce que cette année, vous voulez mener ce combat et rester dans le repos du Seigneur, qui n'a rien à voir avec farniente, rien à voir avec de la paresse, mais un repos du cœur, le repos de l'âme, la tranquillité. Est-ce que vous êtes prêt à mener ce combat et à lui faire confiance cette année, en toute chose ? Que le Seigneur nous bénisse. On va prier.